Il est 38 minutes. Merci d'être bien branché sur les ondes de Boulevard 102.1. Toute l'équipe est là. Il manque quoi, Denis? Et Reg est dans le retour. Qui manque? Là? Qui est en vacances? Il me semble que
Dan.
Tout le monde est revenu de vacances aujourd'hui.
Ouais, c'est Dan. Audrey est revenue de vacances
aujourd'hui.
Aussi. Max est là. Reg est là. Véro est là.
Il y a juste Dan.
Ben, Véro vient de partir, peut-être.
Non, je l'ai vu ce matin.
Oui, mais je crois qu'elle fait plus d'administration. Je pense que là, c'est les tâches patronales aujourd'hui.
Mais bref, Colosse qui était là en fin de semaine.
Ouais.
Mon chum Dan.
Hello,
Dan
j'ai vu
aussi.
Hello ce matin.
Hello qui est un peu plus à week-end pour l'été.
Ouais.
Non, c'est pas tout le monde qui prend les vacances. C'est pas tout le monde.
Toi, c'est quand déjà? Sérieusement, je pars une semaine. Ouais. Je suis contente que tu aies été dans le jus.
Tu m'as manqué.
Ben, toi.
Tu m'as manqué. Un autre qui m'a manqué, c'est Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile. Salut!
Hey, bon midi à mes auditeurs préférés et bien entendu les animateurs aussi.
Très content de te jaser, mon ami. Tu vas-tu voir Rod Stewart sur les plaines d'Abraham ce soir?
Non, je vais aller voir Avril Lavigne, It's Complicated.
C'est ça que tu as choisi, Mathieu, on pensait te connaître.
Ben non, tu sais bien que j'y vais juste parce que quelqu'un qui y allait pas puis il y avait des billets.
Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il va voir Avril Lavigne seul.
Il va seul?
Ouais, mais oubliez pas qu'Avril Lavigne a quand même été une figure pop marquante là, des années 2000.
On n'oublie pas.
Il ne fredonnait pas ses petites chansons. C'est sûr que c'était un peu skateux, mais bon, écoute, c'était dans le temps que tout le monde trippait avant du Warped Tour, puis il y avait des DC Shoes un peu.
Oui, mais mettons, moi j'écoutais ça, j'avais 10 ans, 12 ans, donc Mathieu, t'avais quand même 46.
Quoi? Aïe, aïe, coup de poignard, direct dans le dos. Chronique automobile, s'il vous plaît.
véhicule zéro émission, on en parle depuis déjà quelques années, toi et moi. On était persuadés que les cibles n'allaient pas être respectées puis que le gouvernement allait reculer. Ben, depuis quelques mois, on commence du côté du gouvernement de la Coalition Avenir Québec à dire « Ouais, le gros orange, l'autre bord, les négociations, ce sera pas facile les cibles qu'on s'était fixées. » Puis le Canada aussi commence à se poser des questions par rapport aux véhicules zéro émission puis les cibles qui s'étaient fixées. Là, le gouvernement Legault a décidé d'inclure des voitures polluantes pour atteindre ces cibles.
Ouais, mais ça, c'est typiquement gouvernement du Québec. Quand on a une cible qu'on peut pas atteindre, plutôt de dire, savez-vous quoi, on s'est trompé, on va reculer, on va y repenser, on va bien le faire. On essaye plutôt de couillonner la planète médiatique de manière à ce qu'on va inclure une petite passe-passe pour démontrer que nous autres, on a fait mieux qu'ailleurs. Finalement, en grattant, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a toujours une petite passe-passe à la CAQ, que je commence à pas mal être allergique.
Mais Benoît Charrette, je commençais à y prendre goût là, à son engouement qui semblait totalement sincère là, quant à la réalisation de ce projet-là dans les dates.
Tu trouves qu'il y avait des phases de sincère? Moi, je me rappelle encore quand il a annoncé qu'on allait manquer d'essence, là, tu sais, qu'il était en train en plus de recharger un véhicule.
Mais c'était une belle pièce de théâtre. Tu sais, honnêtement, on va se le dire. Là. Il savait, il était conscient que ça allait jamais arriver.
Oui, mais la vie, c'est pas watatata, là, tu sais, laisser faire les pièces de théâtre, là, puis arriver
totalement
sur la planète
d'accord.
Terre, là.
Mais c'est là où on voit qu'on se fait embourber, là.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, la chute importante des ventes de véhicules électriques, là, c'est quand même un point qui est énorme. L'autre chose qu'on n'a peut-être pas, qu'on a peut-être sous-estimé, la pression des constructeurs automobiles, là, dans le contexte économique difficile qu'on a présentement. Dernièrement, je lisais un article et il y a une explosion des gens qui ont des prêts automobiles qui dépassent le 1 000 $ par mois. Donc, le contexte, il est difficile. Essaye de pousser des véhicules électriques à 80 000 bâtons dans la bouche des gens. Je l'ai toujours dit. Les véhicules électriques, ça va fonctionner quand? Quand le véhicule va être abordable, quand il va être libre de tout gremlin informatique ou électronique ou autre, et quand on va avoir un réseau efficace pour le soutenir. N'oubliez pas qu'au départ, c'était super intéressant, le réseau de bornes électriques, c'était vraiment pas cher. Mais dernièrement, avec certaines personnes qui ont fait des longs voyages, qu'est-ce qu'on apprend de plus en plus? C'est que le coût d'une borne de recharge niveau 3 s'est adapté au travers du temps, et non seulement il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher lorsque tu es sur la route que lorsque tu es à la maison. Donc ça, c'est pas énorme, c'est pas à mettre de côté. Puis l'autre chose, la volonté de préserver les emplois puis l'industrie locale, ça aussi. Et on n'oubliera pas, t'as raison Marceau, on l'a dit au travers du temps, les véhicules hybrides ont toujours été vus comme des passerelles par nous et on le dit souvent.
Écoute, c'est sûr que des fois, on est un peu plus négatif parce que c'est des décisions du gouvernement puis on a comme une tendance à critiquer les décisions du gouvernement. Mais toi et moi, quand on avait mis ça en place, les cibles, tant au Québec qu'au Canada, on les avait dénoncées puis on avait mentionné ça va être impossible que tout le Québec au grand complet dans ces dates-là devienne électrique du jour au lendemain. Ça va être impossible. Parce qu'on est groundé sur le monde, sur le vrai monde qui nous parle puis qui nous disent Yann, moi, avec le trajet que j'ai à faire ou avec la job que j'ai à faire, on parlait aux des gars de construction dans le temps, ça va être impossible d'avoir un véhicule électrique. On parlait avec des électriciens qui disaient, tu sais, Yann, sur l'île de Montréal, là, les gros édifices à condos, là, si tout le monde est avec des véhicules électriques, là, ça va être complexe parce que l'électricité, ce qu'on a passé dans ces bâtisses-là, c'est pas fait pour ce type de charge-là, pour charger tous les véhicules électriques. On avait déjà collé à shot alors que le gouvernement venait de mettre ça en place.
On avait des tempêtes de neige l'hiver où les gens avaient plus d'électricité, puis des pannes de 2-3 jours, puis ça se garochait aux galeries de la capitale, puis c'était pas capable de se recharger pareil. Puis des parents d'enfants qui se disaient « Hey, j'aurais jamais ça, moi, s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, quand c'est le seul véhicule de la maisonnée. »
Ben oui, puis quand j'ai roulé la moto électrique l'autre semaine, on s'est dit entre les boys and girls du Biker Club de Matt, hey, ouais, on ne siphonnera pas d'énergie dans mon basic aujourd'hui. Hein? Comment tu veux transférer de l'essence d'un à l'autre comme ça? Ça se fait bien de l'essence, mais d'énergie, ben c'est bien de valeur, mais c'est pas avec nos doigts qu'on va réussir. Hein? Mais l'autre truc qui est très paradoxal, c'est que n'oubliez pas que présentement au Québec, on veut se donner la vision la plus verte. Et il y a encore des endroits qui roulent avec des réseaux autonomes d'énergie du côté de l'hydro. Et même pour, mettons, je vais prendre le premier qui me vient en idée, là, les îles de la Madeleine. Devinez quoi? C'est une centrale thermique qui il y a 6 moteurs de 11 000 kilowatts qui fournit de l'énergie à une clientèle de 13 000 personnes. Demain matin, tu vires tout à l'électrique. Ben devine qu'est-ce qu'il y a en arrière qui donne l'énergie? C'est les 6 vieux moteurs diesel qui roulent et qui font de la pollution à côté. On n'est pas prêt demain matin à dire qu'on va être vert de bout en bout juste à cause de des beaux objectifs.
Donc, en raison de la baisse drastique des ventes de véhicules électriques depuis le début de l'année, le gouvernement Legault qui a décidé d'inclure des voitures plus polluantes, ça va être quoi les voitures plus polluantes qui vont inclure dans la stratégie pour atteindre les cibles climatiques?
Bah, tu sais, on s'entend, le plus polluante. L'autre chose aussi qui est bien importante de noter, là, c'est qu'en 1978, là, mon bon vieux Ford avec un 400 pouces cubes dedans, ça roule à 25, 26, 27 litres au 100. Quand tu te ramasses aujourd'hui avec un Ford F-150 là, qu'on appelle le Power Boost, ben devinez quoi, la consommation, elle est grandement améliorée. On parle d'un véhicule qui va être capable de faire du 9 à 10 litres au 100 lorsqu'on va... Bon, c'est sûr qu'on n'accroche pas encore la remorque en arrière, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que le comparatif, il est extrême des gains qu'on a faits. De plus en plus de véhicules vont afficher aussi des mentions à pollution faible ou très limitée. Donc, let's go, tu sais, on a eu de l'amélioration au travers du temps.
Parce que ce qu'on comprend de Benoît Charrette, là, c'est qu'il a décidé de modifier la norme VZE pour inclure les types de véhicules hybrides, même ceux non rechargeables à essence. Fait qu'explique-moi, c'est quoi ces véhicules-là? Parce que tantôt, j'ai essayé de l'expliquer à Pascal en disant, ben, t'es pas obligé de tout le temps avoir un véhicule électrique branché dans le mur pour ta batterie. Tu peux tout simplement rouler avec, puis lui, il va se régénérer en énergie, puis il va donner ça au moteur. Es-tu capable d'y expliquer comme d'une façon peut-être un peu plus formelle?
Check bien ça, on y va. Okay? Un véhicule hybride, là, c'est vraiment un véhicule qui utilise deux types de motorisation pour se déplacer. Dans la majorité des cas, ça va être un moteur à essence qui est combiné à un moteur électrique et bien souvent une petite batterie pour justement prendre l'énergie, l'emmagasiner puis l'utiliser. Les deux moteurs peuvent fonctionner indépendamment ou encore ensemble selon la situation de vitesse, le besoin de puissance, la charge de la batterie. L'objectif, c'est vraiment de réduire la consommation d'essence et les émissions polluantes sans dépendre uniquement de la recharge électrique parce qu'on sait, c'est long, c'est compliqué. Il y a trois grands types d'hybrides. Le fameux classique qu'on appelle non rechargeable. Exemple, le Toyota Corolla hybride. Où est-ce que sa petite batterie se recharge automatiquement avec l'énergie qui est récupérée au freinage, au ralenti. Et à très basse vitesse, en mode électrique, le véhicule va pousser son petit moteur électrique pour décoller le véhicule. Là, où est-ce que ça consomme beaucoup plus d'énergie, vraiment d'essence habituellement. Et ça va apparaître vraiment sur le compteur. Un autre type, c'est l'hybride rechargeable. Donc, ça, c'est vraiment qu'on peut brancher dans le mur. Ça, le meilleur exemple de ce temps-ci qui est populaire, Mitsubishi Outlander PHEV. Donc, on se branche sur une borne pour recharger la batterie et ça permet de faire entre, je ne sais pas moi, entre 30 et je te dirais que le nouveau RAV4, même lui, ça va peut-être aller jusqu'à 70-80 km en mode 100% électrique avant que le moteur à essence prenne le relais. Et ce qu'on voit de ce temps-ci, c'est ce qu'on appelle un hybride léger. C'est que c'est un moteur électrique qui n'entraîne pas directement les roues, mais qui assiste le moteur à essence pour réduire la consommation. Et on l'a vu surtout dans des grosses camionnettes. Et s'ils rajoutent des hybrides légers comme ça, les mild hybrid, là, qu'on appelle, que c'est juste une petite assistance, juste un petit souffle, comme je dis, qu'il n'y a pas vraiment une grosse batterie non plus là-dessus. Ça, c'est pas correct de la CAQ, parce que ça, effectivement, il n'y a pas un gain énorme et majeur. C'est beaucoup plus, je te dirais, un petit souffle pour décoller le véhicule et c'est très, très minime sur la consommation, ce que ça paraît. Mais étant donné les normes incroyablement sévères des gouvernements, les manufacturiers sont prêts à faire n'importe quoi pour rabaisser la consommation générale d'une flotte de modèles disponibles.
Oui, puis ce que Benoît Charlette mentionne, c'est que les constructeurs misent et miseront beaucoup plus sur les modèles hybrides au cours des prochaines années. Oui. Il mentionne qu'il ne s'agit pas d'un recul de l'électrification du Québec, c'est juste des petites adaptations qu'on a à faire ici et là. Mais j'ai l'impression qu'ils vont, à mes yeux, à moi, j'ai l'impression qu'ils vont reculer encore plus, Matt, parce que les cibles sont complètement débiles.
Ouais, les cibles, ça n'a pas de sens. Repoussez ça et n'oubliez pas, quelque chose qui va diriger le futur de l'électrification, ça va être l'économie et le portefeuille des gens. Si on commence à plier les gens et les accoter au mur, ouch! Et n'oubliez pas que souvent, là, les grands maîtres VE, les disciples de l'Église verte, vont nous prôner ce qui s'est passé dans d'autres pays en Europe. Mais n'oubliez jamais une chose, sur quoi ces pays-là ont reposé leur fortune pour rendre le virage électrifié abordable sur le pétrole qu'ils avaient en grande volumétrie. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est difficile de trouver quelque chose de bien balancé, mais sachons que même dans le futur, les motos électriques vont être plus performantes, plus autonomie, moins chères. Les véhicules, ça va être la même chose, mais donnons le temps à l'industrie de s'adapter. Si on force, ça fait rien que créer des problèmes de plus dans le futur. Puis je te le dis, là, les histoires de couettes de fil, puis batterie, puis de non-production justement de pièces disponibles pour le remplacement au travers d'un très court laps de temps. C'est des choses auxquelles je ne veux pas faire face dans l'industrie automobile.
Mathieu Thomassin, tu as essayé le Toyota 4Runner 2026. Quel beau véhicule. Je ne sais pas quelle couleur le véhicule était, mais moi, le véhicule un peu plus couleur sable. Je ne sais pas, Pascal, c'est quelle couleur ça?
Oui, oui, tu es là dedans.
Couleur du désert.
Couleur du désert, je le trouve magnifique. Toi, tu l'as essayé. Comment tu l'as aimé?
Bon, premièrement, le nouveau 4Runner a fait un paquet de changements. Et Toyota, c'est vraiment quand même attaqué à garder son côté un peu plus baroudeur. C'est sûr que dans les points qui m'accrochent, j'ai un modèle 3 rangées, l'espace de la troisième rangée en arrière, ça n'a juste pas de sens. Mais ça, c'était la même chose que dans les modèles Limited. On a ajouté des motorisations hybrides. Donc, bien entendu, la motorisation hybride limite un petit peu l'espace cargo. Et on a conservé un peu son côté qui brasse. C'est pas le plus confortable au travers de tout ça. Mais on a conservé de manière impressionnante les capacités hors route de celui-ci. On s'attend à avoir une meilleure économie. Cependant, avec la motorisation turbo, ça y va si tu appuies pas trop dessus. Mais dès que tu lui demandes un peu plus de puissance, whoop-a-lice, ça se met à consommer pour ce véhicule-là. L'affaire est qu'il est disponible en une variété de modèles et le prix varie énormément. Le modèle que j'essaie présentement, c'est un modèle SR5 avec le petit écran à l'intérieur, une omniprésence de plastique, des petits pneus vraiment de touring. Devinez quoi, c'est le seul qui est sous la barre des 60 000 $. On parle d'un PDSF de tout juste 57 000 $.
Puis comment t'en parles, il n'est peut-être pas assez efficace pour quelqu'un qui recherche ce type de véhicule-là à la base, là.
Ce qui m'agace surtout, c'est le prix auquel on est rendu avec les véhicules aujourd'hui. Parce que si vous voulez aller chercher justement la version hybride, hein, celle-là qui devrait rentrer dans les statistiques de Québec, on parle d'un prix qui gonfle automatiquement à 70 500 environ PDSF. C'est majeur comme prix pour un véhicule sport utilitaire aujourd'hui. L'autre chose aussi, le dernier, il était extrêmement désiré des bandits, des voleurs. Donc, les primes d'assurance ont gonflé. Mais pourquoi? C'était une fiabilité incroyable. C'était une valeur résiduelle incroyable. Et malgré ces 14 années d'existence dans le précédent modèle, je vous dirais que lorsqu'on arrive avec le nouveau, il y a des petites choses qui nous accrochent un peu. Puis juste au niveau de la vibration du nouveau moteur 4 cylindres, je suis un peu moins satisfait. J'aimais tellement l'ancien V6 que peut-être je suis resté accroché. Cependant, je trouve que la machine a d'excellentes capacités, mais il faut pas oublier qu'il y a énormément de compétition présentement dans ce monde-là. Et je dois avouer que le For Honor fait pas échapper. Et l'autre chose aussi qui est bien importante, c'est que j'entends beaucoup d'histoires avec Toyota présentement, des histoires d'ailleurs, la dernière qui m'est arrivée sur la table, c'est un Tundra. Une personne avait une problématique avec la couette électrique en arrière de son panneau, fonctionnait, fonctionnait pas, voire même les boutons pour l'ouvrir, le côté électrique. Il est allé en concession, puis on lui a dit, ouais, ça va être une facture d'environ 5 000 changer cette couette électrique-là. Ça n'a plus de bon sens le prix que c'est rendu au travers de tout ça. Donc, pour faire attention, quand on redessine les véhicules, de pas trop les rendre avec une complexité électronique, turbocompressée, hybride, pour que ça soit plus réparable dès qu'il y a quelque chose qui arrive et que ça coûte les yeux de la tête. Si on veut conserver un véhicule longtemps aujourd'hui, celui-ci doit être facile à réparer et non seulement pas avoir une omniprésence d'électronique de bout en bout. Fait que Toyota est allé dans cette direction-là. Est-ce que
Mais
ça va fonctionner?
comment tu t'assures que les concessionnaires continuent de vendre tes véhicules si tu fais le véhicule le plus facile à réparer? Parce que
Ça, c'est là. Ça, c'est l'autre monde.
Parce que
Tu
les
m'amènes sur un
concessionnaires
sujet,
font
là.
pas d'argent avec beaucoup d'argent avec les ventes de véhicules. Eux, ce qu'ils font, c'est les services après-vente. Puis quand tu vas faire te réparer ton véhicule après 8 ans, là, ils font beaucoup d'argent.
Oui, puis la complexité des véhicules, là. Tu sais, moi, mon petit garage du coin, je l'adore. En passant, c'est un des seuls qui a encore 5 étoiles sur Google, hein. Ils sont rares, ceux-là, qui peuvent se vanter de ça. Mais cependant, il choisit ses jobs de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est sûr que quand tu vas arriver avec quelque chose de compliqué, avec justement une motorisation hybride turbo-compressée, ça se peut qu'il me revire. Puis devine quoi, je le comprends. Parce qu'il y a en masse de travail régulier encore dans les véhicules, tant au niveau des pneus, tant au niveau des suspensions, tant au niveau des freins, tant au niveau de l'entretien général d'un véhicule. Mais c'est normal, à un moment donné, qu'il place une ligne qui n'ira pas jouer dans la configuration électronique ou une programmation ou qu'il y a le dernier ordinateur non plus pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pas entre la batterie et le système hybride, là. On est rendu dans un monde assez particulier. Cependant, c'est là que les concessionnaires viennent en ligne de compte. Eux autres ont toute l'expertise nécessaire, sont formés par le manufacturier, ont tout ce qui est comment dire, à la dernière technologie pour supporter les véhicules qu'ils mettent sur la route. Donc, c'est pas mal de cette manière-là, effectivement, qui nous attrape à très grands frais. Fait que, tu sais, dites-vous que le Forerunner présentement que j'essaie, puis on marque un PDSF de 57 000 $, mais dites-vous une chose, quand on accumule le taux de financement, quand on accumule l'emprunt, mettons que ça vous coûterait sur 5 ans, on est dans des paiements qui dépassent les 70 000 bâtons. Il ne faut pas oublier nos belles taxes. Hein. Notre gouvernement aime ça, des véhicules qui valent du 70 000. Pourquoi? Parce qu'il s'en met encore dans les poches. Est-ce que le Forerunner est un bon véhicule? La réponse, c'est oui. Est-ce que cependant, il file encore un petit peu vieux malgré l'année 2025, surtout en version de base? La réponse, c'est oui. Si j'avais le budget, j'irais sans doute avec une version hybride, avec un package TRD off-road qui me donnerait les capacités nécessaires pour aller encore plus loin, surtout avec un look un peu plus agressif. Mais là, à partir de là, avec un PDSF de 70 000 bâtons, il va falloir que je mange du craft dinner, puis je vais être franc avec toi, Marceau, ça me tente pas bien, bien de ce
On
temps-ci.
termine avec ça, Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile. Il y a des milliers de véhicules Nissan et Infiniti, en fait des milliers de propriétaires qui vont être déçus parce que il y a des chances que le moteur doive être remplacé.
Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est sorti dernièrement. Vous savez, Nissan, là, présentement, ça va très mal. Il y a des grands défis, tant au niveau de la rentabilité de l'entreprise. Et là, c'est 440 000 véhicules qui ont été rappelés aux États-Unis en raison de roulements potentiels défectueux dans le nouveau moteur V6 turbo. On avait créé une technologie à compression variable. J'entrerai pas dans les détails, mais on disait que c'était ultra efficace, beaucoup plus performant, encore très beau sur papier. En réalité, ouch! Donc, il va y avoir des concessionnaires qui vont devoir inspecter l'huile à la recherche de débris métalliques. S'il n'y a rien qui est trouvé, nettoyage, mise à jour logiciel, sinon, remplacement complet du moteur. Et là, combien ça va coûter? Ouch! Parce que c'est un rappel qui pourrait être massif. C'est une conception aussi initiale qui était relativement nouvelle. Nouvelle technologie, qu'est-ce qui fait qu'on l'a encore échappé? Si j'étais Nissan, le boss de Nissan, tu peux être sûr que je redescendrais dans ma ligne hiérarchique et j'irais sur le terrain parce que des erreurs de même, on ne peut plus s'en permettre. Donc, des belles technologies, mais ça nous rappelle une règle simple, que l'innovation sans durabilité, ça ne roule pas bien, bien loin.
Mathieu Thomassin, pour en savoir plus sur toi, sur le merveilleux monde de l'automobile, on te suit à quel endroit?
On y va sur Question Auto sur YouTube. D'ailleurs, allez voir les derniers vidéos courts qu'on a fait du Forerunner. Justement, je vous fais la tournée à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il y a bien entendu TikTok aussi, si ça vous tente, si vous êtes jeune dans le vent. Et pour les vieux de la vieille, un bon vieux site Facebook, là, Question Auto sur Facebook. Puis pour ceux-là qui seraient perdus, écrivez-moi, là, j'ai l'air un peu louche sur ma photo. Là, et puis je vais vous donner là, toutes les réponses nécessaires. Puis je te le dis, Marceau, je t'avais de me partir un service d'aide à l'acquisition de véhicules. Là, de ce temps-ci, les histoires que je reçois, c'est impressionnant. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir de l'aide dans l'achat de vos prochains véhicules.
Mais je trouve que tes photos de profil dans les derniers mois sont moins bonnes que celles que tu avais avant quand tu te faisais poser, exemple, avec ton cochon ou quand tu te faisais poser avec un chien ou quand tu te faisais poser. T'avais-tu déjà été qu'une... Ah non, avec une... T'étais un apiculteur.
Oui. Écoute, Matt a plusieurs actifs dans sa sphère de capacité. Je vais
laisse-toi pas
une un nouvel animal pour poser. Là.
C'est ça. Mais,
Yannick Marceau est disponible.
Il y avait aussi, quand tu faisais des bonnes prises sur la Grande Allée.
Oui, mais ça, c'était dans le bon vieux temps. Là.